La chronique des notaires, c'est un rendez-vous désormais hebdomadaire où les notaires de la Cour d'appel de Toulouse vous apporteront un éclairage, des solutions, une visibilité pratique et tenteront de vous faciliter la gestion quotidienne.
Bonjour à tous et toutes, chers auditeurs et auditrices d'Altitude FM. Donc aujourd'hui, dans la chronique, nous allons un petit peu nous éloigner du droit notarial, droit positif, c'est-à-dire le droit applicable à l'instant T lorsque vous écoutez cette chronique. Nous allons faire une rétrospective de l'évolution du droit des femmes, en fait à l'occasion mais évidemment de la journée du 8 mars. Toujours intéressant de voir comment le droit français, qui est présumé être un droit en avance sur son temps, un droit des Lumières, considère les femmes qui constituent plus de la moitié de notre société. Donc une petite rétrospective de ce qui se faisait avant, et puis pour apporter un petit peu un éclairage sur cette évolution, bien entendu, et aussi un petit peu de la critique, hein, parce que le droit français rayonne à travers le monde, mais il rayonne pour le droit des femmes depuis finalement assez peu de temps. Donc, revenons un petit peu à des temps immémoriaux. Bon, on n'a pas énormément de choses, bien évidemment, sur l'Antiquité. On sait que nos ancêtres, les Gaulois, avaient une société qui était assez égalitaire. Ils étaient peut-être bien en avance sur leur temps à ce moment-là. Et que, d'une façon quasiment universelle, à mon sens, les inégalités entre les hommes et les femmes ont été introduites par les différentes religions, surtout les religions monothéistes. Les Gaulois qui ont été christianisés avec l'Empire romain se sont pliés à ce droit romain. Certes, on a peu de traces du droit depuis l'Antiquité. On a les tables d'Hammurabi, qui est le premier texte de loi connu, mais vraiment sur un support, droit marbre ou granit. Évidemment, ensuite, il y a toutes les questions de droit qui ont été reprises dans les livres sacrés. Mais on a finalement assez peu de traces là-dessus. On sait toutefois que les Gaulois, nos ancêtres, les plus chers, dirons-nous, avaient une société égalitaire. Évidemment, très peu de traces au niveau des âges sombres et tout cela. Bon, on ne va pas s'étendre sur le Moyen-Âge. On sait que le droit des femmes n'était pas aussi important que maintenant, même si on a tendance un petit peu à notre regard du XXIe siècle à noircir le tableau. On sait par exemple les mariages, et du coup les femmes étaient quand même au centre des tractations entre États pour agrandir, rendre plus puissant tel ou tel État. On arrive à la Révolution française, à partir de là que je suis plus connaisseur de la situation. Donc la Révolution française, bien sûr, grandes attentes avec la Révolution française, au niveau du moins de l'égalité, puisque c'est le fruit de la philosophie des Lumières. Les grands révolutionnaires, Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, bon, sur le droit des femmes, il n'y avait pas trop de choses à dire. Il y a un révolutionnaire, en revanche, que nous connaissons tous, Olympe de Gouges, qui, en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a écrit la Déclaration des femmes et des citoyennes pour bien faire valoir le droit des femmes durant la Révolution française et dans notre société. Bon, évidemment, on sait que cette déclaration-là n'a pas été suivie d'effet, comme beaucoup de déclarations du reste pendant la Révolution française, période hautement troublée par la terreur, par les différentes guerres. Pendant la Révolution française, il y a une volonté d'égalité entre les citoyens, pas vraiment de place laissée aux femmes. On arrive au consulat et surtout au Code civil. Le Code civil de 1804, qui a été créé par quatre éminents juristes de droit français, de droit écrit, de droit oral, sous la direction de Napoléon Bonaparte, bien sûr. Le Code civil est, à mon sens, un chef-d'œuvre de misogynie. Alors, je suis désolé si certains pensent que Napoléon était quelqu'un qui était très porté sur l'égalité. Je les renvoie à un recueil de travaux sous la direction de Jean Tullard. Je suis désolé, mais Napoléon était éminemment misogyne. Et j'en veux pour preuve que, à partir du Code civil, la femme est placée sous la tutelle de son mari et elle lui doit même obéissance. Et malheureusement, avec beaucoup de choses du Code civil, de régime après 1804, ou après la chute de l'Empire en 1815, ne vont pas modifier, ne vont pas oser peut-être modifier ce monument du droit, et on va avoir même parfois un décalage entre le texte de la loi et la société. Donc pendant des années, on a certes des petites choses quand même, enfin des petites choses, des grands progrès, mais qui restent par rapport à tout ce qu'il y a à faire assez mince. On a pendant la Troisième République un droit à l'instruction qui est enfin acquis pour les femmes. Et c'est à peu près tout au niveau du droit. On a toujours cette prédominance de l'homme sur la femme, tant au niveau de la vie du couple que de la vie économique. Les deux grands changements concernant les femmes, ce sont les guerres mondiales. Pourquoi ? Parce que tous les hommes étant sur les fronts, ou du moins une grande partie d'entre eux, eh bien ce sont les femmes qui font tourner l'économie, notamment avec l'économie de guerre. Et là, justice leur est rendue, je dirais, puisqu'il y a déjà un premier élan après la Première Guerre mondiale, et c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale et une ordonnance rendue en 1944 que les femmes obtiennent enfin ce qui aurait dû leur être attribué avant, le droit de vote et le droit d'éligibilité, avec un premier exercice, un premier vote dès 1945. Et à partir de là, en fait, tous les 10-15 ans, on va avoir des réformes qui vont vraiment faire grandement augmenter le droit des femmes. Dans le préambule de la Constitution de la 4e République de 1946, on a le principe de l'égalité qui est enfin édicté. Et nous avons la première femme ministre qui est nommée en 1947 en la personne de Madame Poinçot-Chapuis. Au niveau du droit notarial, la plus grande réforme intervient en 1965, puisqu'il y a une réforme des régimes matrimoniaux. Jusque-là, nous étions placés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquis, et nous avons le nouveau régime de la communauté réduite aux acquis. Ça, il faut être un peu connaisseur pour voir la différence, mais ce qui est le plus important, c'est que dans le cadre de cette réforme, les femmes peuvent gérer seules leur patrimoine propre et elles peuvent exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de leur mari. 1965, c'était hier. Donc vraiment, il faut être très comptable de l'histoire du droit à ce sujet. C'est assez récent. En 1970, nous avons une loi qui, au terme de laquelle l'autorité parentale est partagée entre le mari et la femme, enfin entre le père et la mère plutôt. Dit comme ça maintenant, enfin, ça paraît évident, mais ce n'était pas évident à l'époque. Et nous avons une loi de 1975 qui a créé le divorce par consentement mutuel. On est bien loin à ce moment-là des répudiations telles qu'on pouvait les avoir auparavant. Alors 1975, bien évidemment, année charnière, puisque nous avons également la loi Veil qui donne le droit aux femmes le droit d'avorter. Donc voilà, c'est une période charnière du droit des femmes et de la société française. Et la dernière loi qui scelle l'égalité entre hommes et femmes au sein du mariage, au sein du couple, c'est donc une loi de 1985 qui établit l'égalité dans le régime matrimonial et dans l'autorité parentale. Ça reprend un petit peu les termes d'avant, mais 1985, bon nombre d'entre nous étions nés, donc on voit quand même que c'est très récent. Il faut être, je pense, assez critique avec le droit français, puisque, comme je l'ai dit, on a l'habitude de le considérer comme un droit issu de la philosophie des Lumières et toujours en avance sur son temps. Force est de constater que les droits des femmes ont été acquis au forceps. Et pour paraphraser Simone de Beauvoir, je ne vais pas la citer, je n'ai pas la citation exacte en tête, mais ces droits, les droits qui ont été acquis par les femmes, attention, peuvent être retirés. Hein. Il suffit que l'on ait des crises existentielles, des grandes crises de société, pour que les droits acquis soient retirés sans autre forme de procès. Donc soyons vigilants face à cela. Et dans notre métier, eh bien, évidemment, s'il y avait une telle catastrophe qui se présentait, eh bien, nous en serions évidemment parmi les premiers à constater cette rupture d'égalité dans le cadre des liquidations, des partages, des signatures de contrats de mariage. Voilà un petit point à l'occasion de la journée du 8 mars sur les droits des femmes. Petit point sur l'histoire du droit des femmes en France. Point rapide, bien sûr. Et évidemment, tout sous l'angle du droit notarial, notamment des régimes matrimoniaux. Je vous dis à très bientôt et je ferai de temps en temps des chroniques qui s'éloigneront un petit peu du droit notarial et qui seront plus en rapport avec l'histoire du droit, qui est un sujet qui m'a, à titre personnel, longtemps passionné. À très bientôt. Au revoir.
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'Institut des métiers du notariat ou de nous retrouver sur notre Twitter @notaire au pluriel TLSE ou sur Facebook Notaire Cour d'appel de Toulouse. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Altitude FM.